Ça enregistre, Daniel? C'est bon. Alors nous allons continuer. C'est le deuxième message dans le prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament. Nous étions arrêtés au milieu du chapitre 3, après que Josué ait été symboliquement lavé, purifié par Dieu lui-même, par grâce. Et nous allons lire donc Zacharie 3, verset 8. « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 lieues sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » J'aimerais rappeler à nouveau que nous étudions donc un livre prophétique. La Bible tout entière est une prophétie, mais il y a des passages vraiment très prophétiques. Ici, Zacharie est un homme appelé par Dieu à proclamer la parole de Dieu à Israël et aussi à l'écrire, hein, puisque c'est un livre que nous pouvons lire aujourd'hui. La prophétie biblique a deux aspects, l'exhortation, hein, d'encourager ou de reprendre, et puis le futur, annoncer les choses futures. La prophétie biblique est terminée, puisque avec l'Apocalypse de Jean, nous avons eu le dernier livre du Seigneur. En 2 Timothée 3,16, c'est écrit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc toute l'Écriture a été inspirée, et tout ce qui est inspiré a été compilé dans la Bible, et nous avons tout ce qu'il faut pour être accompli et propre à toute bonne œuvre. On n'a pas besoin de nouvelles prophéties, on a toutes les prophéties qu'il nous faut. Alors on peut dire, oui, mais moi j'aimerais savoir pourquoi ceci, comment cela. Sondons les Écritures, ne cherchons pas au-delà des Écritures. C'est dans l'Apocalypse, il y a cet avertissement, hein, ne rajoutez rien et n'enlevez rien à l'Écriture. C'est un avertissement très solennel. Mais l'Écriture est assez complète, assez dense, hein, pour y trouver tout ce qu'il faut pour notre vie présente et future. Dans les prophéties, il y a d'abord l'interprétation qu'il faut faire correctement. Qu'est-ce que le prophète voulait dire en son temps? C'est ça l'interprétation. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Israël? Et puis, il y a l'application pour nous. Quelle leçon spirituelle on peut tirer? Dans Zacharie, nous voulons découvrir le Dieu d'Israël, le Dieu de Zacharie, notre Dieu, avoir des aspects de Dieu particuliers à travers ce livre et louer le Seigneur, l'adorer et le comprendre et lui obéir. Zacharie a prophétisé dans une période sombre, mais en même temps, plein de renouveau. Sombre parce qu'il sortait du jugement, Israël sortait du jugement de l'exil en Babylonie, à Babylone, et ils étaient revenus, ils avaient commencé à reconstruire péniblement les murailles, les maisons, le temple, et puis tout s'était arrêté au milieu, pour diverses raisons qu'on va voir tout à l'heure. Et il y avait un grand découragement, une grande lassitude, une grande crainte, et une sorte de vide spirituel, et Zacharie est envoyé pour réveiller le peuple et dire « Hé, ne vous arrêtez pas, Dieu est là. » Et ce qu'il a dit, on l'a vu la dernière fois, il a dit « Vous êtes la prunelle de mon œil, je choisirai encore Jérusalem. » C'est-à-dire, même si vous avez été châtié en étant exilé à Babylone, vous êtes toujours mon peuple et j'ai toujours mes mêmes promesses qui sont vraies pour vous. Alors ici, il dit à Josué, les hommes serviront de signe. Et bien sûr, les hommes sont en particulier Josué, le sacrificateur, donc le grand prêtre, et Zorobabel, qui est l'autre héros, si on peut dire, de ce livre, qui est le gouverneur. Ces deux hommes, l'un qui représente l'autorité, le sacrificateur, c'est l'autorité religieuse, on peut dire, ou spirituelle, et Zorobabel, le gouverneur, l'autorité civile. Hein, puisque Israël est une théocratie, le civil et le religieux sont régis par Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, en France, par exemple, le civil, c'est régi par l'État français. Même si Dieu est toujours Dieu et il règne, c'est l'État français qui régit le civil, mais le spirituel, c'est encore le Seigneur dans nos vies. Ces hommes servent de signe, ça veut dire quoi? C'est qu'ils attirent l'attention, ils expriment quelque chose. Qu'est-ce qu'ils expriment là? Eh bien, le fait que Josué a été purifié, que Zorobabel a été établi, que ces hommes sont encouragés par Dieu, ça montre à tout le peuple que Dieu a un projet de bénédiction pour Israël. Le fait que les deux leaders soient mis en avant et aussi que Josué, bien qu'il soit pécheur, ait été pardonné et purifié, ça prouve que Dieu veut pardonner et purifier tout le peuple. Et c'est en ça qu'ils servent de signe. Ils sont là pour dire, Dieu n'a pas fini. Allez, levons-nous en avant. On a deux leaders, il faut les suivre. Et puis, il dit, il y a un autre homme qui viendra, mon serviteur, le germe. Alors là, c'est clairement une prophétie messianique. Au-delà de ces deux hommes, donc Josué et Zorobabel, il y a l'homme parfait, le Messie du Seigneur, qui s'appelle le germe. Pourquoi le germe? Ça veut dire en fait la branche, le bourgeon presque. C'est ce qui sort, hein. C'est la branche de David, il est appelé le germe de David, le germe de l'Éternel. Il est celui qui vient de Dieu, celui qui descend de David. Le Messie n'est pas simplement un autre Josué, un autre Moïse, un autre Abraham. Le Messie, il vient directement de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et les Juifs, dans l'Ancien Temps, croyaient au Fils de Dieu. Ils croyaient que le Messie était Fils de Dieu. C'est plus tard, au Moyen Âge, que devant le nombre de conversions importantes de Juifs, soit forcées, parce que certaines étaient forcées, soit volontaires, au christianisme, que des rabbins ont décidé de cloisonner, de fermer le judaïsme pour qu'un juif ne puisse plus être chrétien. Il y a vraiment eu une période autour de l'an 1000 avec Maïmonide, hein, le rabbin espagnol, où ils ont redéfini le judaïsme et fils de Dieu, terminé, on ne parle plus de fils de Dieu. Ils sont devenus un peu comme les musulmans aujourd'hui, c'est-à-dire strictement monothéistes. Il n'y a que Dieu, l'Éternel, il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas de fils, on ne parle pas de tout ça. Et du coup, ils sont obligés d'enlever tous les passages sur l'ange de l'Éternel, qui est quand même une révélation de Dieu, et sur le Saint-Esprit, là, il va parler du Saint-Esprit. Dans le judaïsme orthodoxe, hein, on ne parle pas trop du Saint-Esprit, ça les dérange, c'est trop chrétien. Alors, le Messie a trois noms ici, en fait. Est-ce que vous pouvez les trouver dans le verset 8 et 9? Il est représenté par trois noms. Je vous fais travailler. Le serviteur, premier, le germe, second, et la pierre, trois. Et c'est pas étonnant parce qu'on retrouve ces éléments dans le reste de l'Écriture. C'est ça qui est intéressant dans la prophétie, c'est qu'elle ne s'interprète pas comme ça. Le germe, tiens, ça pourrait vouloir dire ça, la pierre, ça... Non, on va chercher dans la Bible l'interprétation. Le serviteur, c'est l'idée d'humilité, hein, de service, le fait que Dieu serve, le fait que le Messie soit serviteur, pas simplement le roi, mais aussi serviteur. On le trouve dans Ésaïe 53, vous savez, hein, le serviteur qui donne sa vie. Ça aussi, ça a été gommé du judaïsme orthodoxe, hein, Ésaïe 53, chapitre tabou, interdit, parce qu'il est trop messianique, trop près de Jésus et de l'Évangile. Mais donc, le serviteur, c'est Jésus. Quel est l'évangile des quatre qui présente plus Jésus comme un serviteur? Marc, hein? Marc, c'est là où il y a le mot qui revient. Aussitôt, il fit ceci, aussitôt, il fit cela. Il est tout le temps dans l'action. Marc ne parle pas de la naissance de Jésus, il ne s'intéresse pas. Tout de suite, il le met lorsqu'il est dans son ministère, des trois dernières années de sa vie. Et c'est l'évangile du serviteur. C'est là qu'il est écrit, hein? Le Seigneur est venu servir et donner sa vie en rançon pour tous. C'est quelque chose d'avoir un Dieu qui se met au service de sa créature. C'est même incompréhensible, hein? Le roi, normalement, il règne, mais c'est un roi qui s'humilie pour nous sauver. Le germe, c'est l'idée d'une branche donc, qui vient directement de Dieu, mais c'est aussi l'idée d'une branche qui porte du fruit. On trouve ça, par exemple, en Ésaïe 4, 2, le germe. de l'Éternel. Bon, on ne va pas regarder forcément. En Jérémie 23 aussi, cette même expression. Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit, Jésus est le vrai cep. Et nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Et il est la source de vie. Hein, la branche, c'est l'idée de sève qui coule et qui donne la vie et du fruit. La pierre, ça aussi on connaît bien, l'idée d'un roc solide, une fondation. On le trouve en Ésaïe 28. Je vais vous lire juste ce verset, Ésaïe 28, 16, qui est reprise plus tard. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ai mis pour fondement en Sion, donc pour fondation en Israël, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, etc. Donc la pierre angulaire, la pierre de fondation sur laquelle on peut s'appuyer. Dans 1 Pierre aussi, hein, c'est l'apôtre Pierre qui dit lui-même, Jésus est la pierre. Parce que souvent on dit, hein, mais Jésus a dit à Pierre, tu es le roc sur lequel je bâtirai mon église. Et c'est comme ça que le catholicisme romain a été fondé, disant que Pierre était le premier pape et que tous les chefs de l'Église doivent être descendants de Pierre, ou enfin successeurs, pardon, de Pierre, parce qu'il était le roc de l'Église. Mais en fait, Pierre lui-même, en 1 Pierre 2,16, dit, 2,6, pardon, dit, Jésus est la pierre que vous avez rejetée. C'était cette légende, peut-être vraie. Lors de la construction du temple, hein, où les ouvriers avaient mis de côté une pierre parce qu'elle avait une forme bizarre, et au moment de faire la pierre d'angle du mur, il manquait une pierre. Ils ont été voir l'architecte, ils ont dit, il manque une pierre. Il dit, mais non, j'avais tout donné. Et ils vont chercher cette pierre jetée et se rendent compte que c'était la pierre d'angle qui tenait tout l'édifice. Hein, la pierre d'angle tient tout l'édifice. Et Jésus, il est cette pierre rejetée, il a été rejeté, non seulement par son peuple, mais aussi encore aujourd'hui. Il y a des gens qui rejettent Jésus, qui ne veulent pas de Jésus dans leur vie. Et pourtant, il est la principale, il est celui qui a toutes les solutions, il est le sauveur, le seul sauveur. Et les hommes le rejettent. Moi, le premier, hein, j'ai rejeté Jésus, je me moquais de Jésus, de son histoire, de sa personne, sans le connaître. Hein. Et c'est plus tard que j'ai réalisé que toutes mes questions trouvaient une réponse en Jésus-Christ. Nous arrivons au chapitre 4 de Zacharie. Il a une autre vision. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors c'est touchant, hein, cette description. D'abord, on voit que c'est du vécu, parce qu'il raconte tous les détails. D'abord, il est réveillé. Alors est-ce qu'il est réveillé en pleine nuit? Où est-ce qu'il est dans la journée et d'un seul coup il a un songe qui fait qu'il a l'impression de dormir, de se réveiller. Quoi qu'il en soit, les révélations de Zacharie sont très particulières, c'est des visions. Tous les prophètes n'ont pas eu des visions comme Zacharie et ils voient des choses. Et c'est pour ça que certains prophètes étaient appelés des voyants d'ailleurs, hein, parce que Dieu leur faisait voir certaines choses spirituelles et pas des voyants dans le sens actuel, hein, qui voient l'avenir, soi-disant. Et donc, il voit ça, mais il ne comprend rien du tout. Il dit, je ne comprends pas. Et l'ange lui dit, mais tu ne comprends pas? Mais non, je ne comprends pas. Et si ça avait été écrit, hein, comme un livre de légende ou un livre de mythologie, comment ça aurait été fait? Ça aurait été dit, Zacharie vit le chandelier. Et tout de suite, il dit, ah, mais ce chandelier, c'est tac, 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 c'est ça et ça. Mais là, il a l'air d'un idiot un petit peu, excusez-moi du terme. Mais il dit, je ne comprends rien, je ne comprends pas. Et ça montre l'humanité et la réalité de cette vision. L'ange est donc obligé de lui expliquer. Il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, donc le gouverneur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les sept yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces deux oliviers à la droite et à la gauche du chandelier ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Pas facile, hein ? Je pense qu'on pourrait dire comme Zacharie, « Explique-nous, Seigneur. » Mais on arrive à comprendre petit à petit, d'abord avec le contexte historique, c'est pour ça que c'est important de connaître le contexte. Dans les Bibles, avec les notes, comme la Bible Scofield, au début hein, du prophète, vous avez un peu le contexte qui vous permet de savoir de quoi il s'agit. Le chandelier, ça vous fait penser à quoi ? Voilà, le tabernacle, le temple. C'est un ustensile qui était dans le temple, dans le lieu saint. Hein, c'était ce fameux chandelier à sept branches, et non pas huit branches. Huit branches, c'est pour Hanouka, parce que, soi-disant, l'huile a été miraculeusement conservée pendant 8 jours, pendant la révolte des Maccabées, enfin, après la purification du temple, avant Jésus-Christ. C'est pour ça que le Hanouka a 8 branches, mais le chandelier dans le temple a 7 branches. On ne sait pas pourquoi... On ne sait pas exactement pourquoi. 7, c'est bien sûr le chiffre parfait de Dieu. Mais certains disent que ça pourrait être aussi Dieu qui est au milieu, parce qu'il y avait la tige du milieu et il y avait 6 branches, 3 de chaque côté, qui pourraient symboliser les 12 tribus d'Israël et Dieu qui est au milieu de son peuple. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ici, il voit donc un chandelier, mais ce n'est pas le chandelier du temple parce qu'il a des conduits. Pour chaque lampe, il est un peu différent. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans ce chandelier. Et il y a 2 oliviers en plus à côté. Dans le lieu saint, il n'y a pas 2 oliviers. Hein, donc il y a vraiment un symbole là. Et ce chandelier, il a une particularité, c'est qu'il a des lampes tout le temps abreuvées par les conduits. Hein, et c'est quelque chose d'étonnant. Alors certainement, ça va avoir affaire avec le temple, cette prophétie. Et je vais vous donner un petit résumé rapide de l'histoire du temple juif. Au début, au temps d'Abraham, lorsqu'Abraham a reçu la révélation de Dieu, il n'y avait pas de temple. Et Abraham faisait des autels hein, de pierre. Chaque fois qu'il allait quelque part, parce qu'il était appelé à aller vers la terre promise, il s'arrêtait en chemin, il faisait des étapes. Et à chaque étape, il faisait un petit autel en pierre et il adorait le Seigneur. Avec cet autel en pierre. Il a fait ça à Bethel, à Beersheba, à Sichem, et plus tard, Dieu donnera à Moïse des plans d'un tabernacle, c'est-à-dire un temple portatif dans le désert. Ce temple plein de symboles qui devait être démontable et pouvoir circuler avec le peuple dans le désert. En Exode 26-27, il est décrit un peu ce temple. Et puis, ensuite, avec Josué, les Juifs rentrent dans la terre promise. Et le tabernacle va être installé. Il ne va plus bouger, puisqu'ils sont dans la terre promise. Et il va y avoir le sanctuaire à Silo. C'est là que le prophète Samuel va exercer son ministère dans le temple avec le souverain sacrificateur qui s'appelait Élie, hein, qui avait des fils désobéissants et qui en est mort, d'ailleurs, hein, puisqu'il n'a pas... corriger ses fils qui étaient sacrificateurs et qui vraiment corrompaient le temple. Samuel était là dans le temple, justement comme homme de Dieu et prophète. Il est resté à Silo pendant longtemps. David, le roi qui est venu plus tard, voulait construire un temple, mais Dieu lui a dit « Non, ce n'est pas toi qui construiras parce que tu as versé trop de sang. Ce sera ton fils, Salomon. » Et c'est donc avec l'argent récolté par David et les guerres de David que le temple a été construit, un lieu que Dieu a choisi, hein, l'aire d'Ornan, Et c'est là que le temple a été construit, le premier temple en fait. Le tabernacle, ce n'est pas vraiment un temple. Le premier temple, c'est celui de Salomon. C'était un temple extraordinaire, rempli d'or. Il a été bâti en 7 ans et 6 mois. C'est ce qui est écrit en 1 Roi 6.1. Et puis, lorsque Nebuchadnezzar est arrivé en 586, hein, il a détruit Jérusalem et il a détruit le temple de Salomon. Tout a été rasé, détruit, brûlé. Donc, il n'avait plus de temple. C'est plus tard, avec Cyrus, le roi de Perse, que Zorobabel a été encouragé à revenir à Jérusalem et à reconstruire le temple sous Esdras aussi. Et ils ont commencé à rebâtir, à chercher d'abord des pierres, des ustensiles et à rebâtir. Et puis, eh bien, ça s'est pas très bien fini pendant un temps. Ils ont été interrompus longtemps. Et Zacharie, notamment, et Agée aussi, d'autres prophètes ont été envoyés pour leur dire: continuez, finissez ce temple. Et vous avez lu avec moi dans la prophétie: ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Tes mains ont commencé, tes mains l'achèveront. Il parle du temple là, hein, dans la prophétie de Zacharie. Il dit: Zorobabel va finir le temple. Et effectivement, un édit du roi Darius. Darius, c'était le terme pour les rois de Perse. En Esdras 6, demande de finir le temple. Et il fut achevé en 515 avant Jésus-Christ, du vivant de Zorobabel. Zorobabel a vu le temple, le deuxième temple, terminé comme Dieu l'a dit dans la prophétie de Zacharie. Ce temple a été profané par les Grecs, par Antiochus Épiphane, en 169 avant Jésus-Christ, hein, lorsqu'il a sacrifié un cochon. C'est là qu'il y a eu la révolte des Maccabées. Les Maccabées, c'est une famille avec Judas Maccabée qui était leur leader. Et ils ont réussi à chasser les Grecs et à purifier le temple. Et c'est là qu'il y a eu les 8 jours d'huile miraculeuse et qui est célébrée à Hanouka en décembre. Jésus, le Messie, est arrivé. Il a donc connu ce temple rebâti. Mais à partir de l'an 20 de notre ère, Hérode, le roi Hérode, a commencé à faire des travaux gigantesques, phénoménaux, pour agrandir et embellir le temple, le deuxième temple. Et il a quasiment tout refait, tellement c'était des travaux colossaux, jusqu'en l'an 70. Et en fait, le temple venait d'être terminé en 70 quand les Romains l'ont à nouveau détruit. Donc, premier temple, c'est qui? Deuxième temple, Zorobabel. Hein? Deuxième temple ennemi, Hérode, voilà, ou troisième temple pour certains. Et nous attendons le quatrième temple. Vous savez que l'Institut du Mont du Temple est à tout près, là, récemment dans les informations, il nous parlait qu'ils cherchaient la vache rousse parfaite. Donc ils font des croisements, ils prennent du sperme de taureau, etc., pour avoir la vache rousse qui. Pourquoi? Parce que dans la loi, c'est avec du sang d'une vache rousse qu'on devait consacrer les éléments du temple. Voilà, les ustensiles du temple. Et c'est comme ça. Donc, il faut qu'ils trouvent la vache rousse parfaite qu'ils vont sacrifier. Mais ils sont tout prêts. Ils n'attendent plus que la disparition de la mosquée qui est sur l'endroit du temple. Un autre temple est décrit dans le prophète Ézéchiel, qui est le temple du millénium, qui est un temple aussi différent, beaucoup plus grand, avec des mensurations et une configuration différente. Jésus avait dit, en Matthieu 24, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il a dit ça dans les années 30 et en 70, cette prophétie s'est réalisée. Jésus savait que les Romains allaient venir détruire le temple. Osée 3, verset 4 avait dit qu'il n'y aurait pas de culte pendant longtemps, pas de sacrificateur, hein, pendant longtemps. Et bien, ça fait 2000 ans que les Juifs n'ont plus de temple parce que le Messie est venu. C'est lui l'agneau, c'est lui le sacrifice. Alors, ce chandelier, c'est un encouragement pour Zorobabel, en fait, hein, à rebâtir le temple, on l'a bien vu, hein. Mais en quoi le chandelier est un encouragement? Ben, c'est que le chandelier, c'est une allusion au temple, mais aussi à l'appel d'Israël. Israël est appelé la lumière des nations. Si vous prenez Ésaïe 49, 6, par exemple, il y a cette expression, et c'est très important de voir l'appel de Dieu pour le peuple juif. Ésaïe 49, 6. C'est peu que tu sois mon serviteur, et là il parle d'Israël, hein, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis. C'est ça. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. C'est à la fois Ésaïe et à la fois Israël ici. Et Israël devait éclairer les non-juifs. Les nations, c'est les non-juifs. Comment il devait l'éclairer? Eh bien, en vivant la loi de Dieu, en ayant ce culte, cette relation avec Dieu, il devait donner envie aux autres de connaître le Dieu unique, le vrai Dieu. Parce que les idoles ne sont pas des vrais dieux. Les idoles sont des statues qui ne font rien dans votre vie. Tout ce qu'elles font, c'est vous faire peur. Mais le vrai Dieu, il change votre vie, il rentre dans votre cœur. Et Israël devait porter ce message. Il l'a fait en partie. Un certain nombre de prophètes l'ont fait. Par exemple, Daniel, il a été un témoin auprès du roi, de plusieurs rois, Nebuchadnezzar, Belshazzar. Hein. Esther a été un témoin auprès du roi Assuérus de Perse. Mais petit à petit, graduellement, la nation juive s'est refermée sur elle-même en disant « Nous sommes le peuple élu et les nations, ce sont des païens ». Rappelez-vous le livre de Jonas. Qu'est-ce qu'il avait, Jonas? Pourquoi il ne voulait pas aller prophétiser à Ninive? Il avait peur qu'ils se repentent et que Dieu les pardonne et les sauve. Pourquoi il avait peur de ça? C'est ça. C'était des païens, des ennemis, des chiens. Il ne supportait pas que Dieu puisse bénir les païens et les sauver aussi. C'est pour ça que quand Paul, l'apôtre Paul, qui était un bon juif pharisien au départ, hein, il a dit « Moi, je vais aller vers les nations ». Ça a créé un scandale terrible, si vous lisez le livre des Actes. C'est pour ça quasiment qu'il a été arrêté, hein, et lynché plusieurs fois. Parce qu'il dit « Moi, je vais aller prêcher aux non-juifs ». Quand il y a eu le parler en langue à la Pentecôte, c'était pour dire quoi? Pourquoi les apôtres qui étaient tous juifs, là, hein, qui étaient à Jérusalem pour une fête juive de Pentecôte, pourquoi ils se sont mis à parler en langue non-juive, en non-hébraïque? C'était pour montrer que l'Évangile et le Saint-Esprit étaient universel. C'était pas seulement pour le peuple juif, hein, c'était pour tous les hommes. C'était un signe, hein, on dit le signe du parler en langue dans la Bible. Et donc Israël devait être la lumière, le chandelier. Mais ce chandelier est éteint parce que le temple n'est plus là. Il n'y a plus le culte, il n'y a plus la présence, la Shekinah, la gloire de Dieu en Israël, à Jérusalem. Et Israël a perdu toute motivation. Israël n'est plus qu'un peuple désespéré. Et Dieu dit, mais il faut se relever, il faut reconstruire, il faut que ce chandelier vive à nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui va l'abreuver d'huile. Hein. L'huile, dans la Bible, c'est souvent une image du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va, par les conduits, là, alimenter les lampes en permanence. Ce n'est même pas vous, les hommes, qui allez alimenter la lampe. C'est l'Esprit. Ce n'est ni par la force, hein, ni par la puissance, mais par mon Esprit. C'est un verset connu. Hein. Et c'est un verset important pour nous. Les églises aussi sont appelées des chandeliers. En Apocalypse 1:20, on voit Jésus glorifié qui se promène au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il dit, les 7 chandeliers, ce sont des églises. Et nos églises sont appelées aussi, nos églises, les églises qui prêchent Jésus-Christ et qui ont l'Évangile, à briller, à éclairer, à être des lumières. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Hein. Même si on se sent vraiment indigne, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et donc, nous avons ce rôle aussi, mais il y a Satan qui nous décourage, qui divise les églises, qui détruit, qui fait chuter les pasteurs pour que tout le monde dise « Ah ben voilà, les églises, regarde. » Ou les chrétiens. Mais s'il peut avoir les pasteurs, c'est mieux parce qu'ils sont plus visibles. Il y a des chrétiens aussi qui sont peu motivés, mondains, comme l'étaient les juifs pour reconstruire le temple. Ils pensent plus à leur petit confort qu'à l'église. Bon ben l'église, ça marche tout seul. Hein. Mais non, ça ne marche pas tout seul. L'église, c'est nous. C'est nous. Si on n'est pas là, il n'y a plus d'église. Et ça ne marche pas tout seul parce que si, lorsque nous, on va mourir ou partir, qui va continuer l'Église? Est-ce que nos enfants sont sauvés? Est-ce qu'il y a les enfants derrière qui vont continuer? Est-ce que l'Église va continuer à vivre? Est-ce qu'il y a des âmes sauvées? Ou est-ce qu'on reste entre nous, enfermés, en disant « Ah, nous sommes les élus, Où est-ce qu'on va porter la bonne nouvelle aussi? Hein, il y a vraiment une application là pour nous aujourd'hui. Il y a le manque de zèle pour apporter l'évangile. Il y a le manque d'ouvriers dans la moisson. Et on peut dire, oh là là, on manque de pasteurs, on manque d'évangélistes. Et c'est vrai en France et dans beaucoup de pays. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut penser à cette prophétie. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Les hommes, quand ils n'arrivent pas à quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des programmes. Alors, il dit, il faut ramasser plus d'argent. Si on a plus d'argent, on pourra faire plus de choses. Puis on va faire un programme. Alors, toi, tu seras le chef, moi le sous-chef, toi le sous-sous-chef. Et puis, on va faire des trucs, on va des organigrammes, des machins, et on va programmer tout. Et grâce à ce programme, tu vas voir l'Église. Et puis, on va inviter ceci. Voilà. Ça, c'est les programmes humains. C'est pas mauvais d'avoir de programmer des choses. Hein. Parce que si on fait tout la veille en disant, voilà, demain, on fait... hein, non. Il faut programmer, évidemment. Mais si on compte sur le programme, plus que sur Dieu, là, il y a une erreur. Et il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'argent, par le nombre de personnes, ce n'est pas parce qu'il y a du monde dans une église qu'il y a quelque chose. C'est par mon esprit. C'est quand il y a l'esprit de Dieu. Et nous devons être remplis de l'esprit. Nous devons souhaiter que l'esprit nous remplisse, remplisse nos églises, notre église locale ici, pour qu'il fasse une œuvre extraordinaire, miraculeuse. C'est un miracle, là, ce chandelier. Les deux oliviers sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur. C'est très probablement Josué et Zorobabel, toujours. Hein. Et Dieu veut dire, voilà, ces deux hommes sont oints, ils ont le Saint-Esprit, je vais leur donner mon esprit. D'ailleurs, il est dit que Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel à un moment. Hein. Il y a eu un réveil spirituel dans la vie du gouverneur, et il veut réveiller tout le peuple. On va juste regarder le début du chapitre 5 pour avancer. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc Zacharie va recevoir trois dernières visions, le rouleau volant. Ça fait un peu dessin animé, là. L'épha et les quatre chars. Là, on parle du rouleau volant. C'est un rouleau qui contient quoi dessus? Une malédiction. Contre qui? Les voleurs et les parjures. Ceux qui jurent, qu'est-ce qu'ils font par rapport aux 10 commandements? Prennent le nom de Dieu en vain. Ceux qui volent, voilà, c'est le 8e commandement, tu ne voleras point. Et donc, on voit qu'il y a deux commandements là qui sont violés particulièrement, en Israël et à Babylone. Et c'est par rapport au commerce, parce que l'épha, la vision sur l'épha, c'est aussi lié au commerce. L'épha, c'était ce moyen qu'on avait de peser le grain. Donc, c'était un récipient dans lequel on mettait du grain. On disait, ça fait un épha. On ne le pesait pas avec des kilos, on le pesait avec un épha. C'était un volume, hein, l'épha. Je crois que c'était 40 litres de grain. Et pour les liquides, c'était le bat, B-A-T-H. Et donc, il y avait des gens qui changeaient l'épha, c'est-à-dire ils le rognaient un petit peu pour qu'il soit légèrement plus petit. C'est-à-dire ils avaient autant d'argent, mais pour moins de grains. Ou quelquefois, ils l'agrandissaient pour avoir plus de grains pour le même prix. Mais donc, ils trichaient, ils trafiquaient l'épha. Et c'est comme si aujourd'hui, vous changiez les poids. Imaginez, vous commencez à changer les balances ou à changer les compteurs des voitures. Il y a des trafiquants hein, qui réduisent les kilométrages des voitures d'occasion pour la vendre mieux. Hein. Elle a 200 000 km et le gars, il le met à 40 000. Et comme ça... Et ça, c'est du vol, hein, pur et simple. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à ça? Parce que Dieu veut que son peuple soit pur. Et... il y avait en Babylonie et en Israël, ils avaient ramené ça de Babylone, du trafic, de la corruption. Dieu voulait bénir Israël, voulait remettre le temple. Mais pour qu'il y ait le temple, il faut aussi qu'il y ait la pureté dans le peuple, dans le pays. Nous sommes tellement légers avec le péché. Nous, on dit, ah, mais moi, je ne vole pas. Je ne suis pas un voleur. Oui, mais quand on ne déclare pas tous ses impôts, c'est un vol à l'État. Vous pouvez le prendre de tous les côtés. Oui, mais l'État, ceci, mais l'État, ceci, l'État, cela. C'est un vol à l'État. Et il y a plein de choses comme ça dans la parole de Dieu. Hein, il y a les 10 commandements déjà. Et Dieu nous appelle à vraiment suivre ses commandements avec cœur, d'être pur, que notre vie soit pure, que notre cœur soit pur, que notre église soit pure. Là, c'était tout le pays hein, qui devait être pur. Et Dieu a envoyé une malédiction contre les voleurs et les parjures. C'est vrai que le monde du commerce apporte beaucoup de triches. Hein, c'est tellement tentant de manipuler, d'escroquer. Et l'amour de l'argent mène à toutes ces choses qui sont mauvaises. Dieu veut que nous soyons purs. Et parfois, on abuse de la grâce de Dieu. On dit, oh Dieu, il va me pardonner, Dieu est gracieux. Alors on peut se permettre, on peut tolérer. Eh bien non, si vraiment on aime Dieu, on aime ses 10 commandements et on veut obéir au Seigneur. Pour que la bénédiction vienne, il faut qu'il y ait la pureté. Il faut qu'il y ait la droiture. Il ne faut pas qu'il y ait de corruption, de mensonge, de vol, de parjure. Et ici, Dieu va faire ce reproche en particulier, afin que le temple puisse être reconstruit et terminé dans de bonnes conditions. Il va y avoir des jugements aussi sur Babylone, qui était l'antre du commerce mondial et qui, dans l'Apocalypse, est là de nouveau, si vous lisez l'Apocalypse 18, c'est le jugement de la Babylone commerciale. Et c'est toujours là, cette sorte de Babylone basée sur l'argent, le culte de l'argent. Je pense que le culte de l'argent est la première religion du monde. Si on veut savoir qui a le plus d'adeptes, c'est l'argent. C'est pas l'islam ou le catholicisme. Et le Seigneur veut que les chrétiens soient détachés de ces choses, que l'argent ne soit pas une idole pour nous, mais que ce soit un outil, un instrument pour faire du bien. Il y a plusieurs éléments dans l'évangile hein, sur l'utilisation de l'argent. Et nous devons bien en prendre note pour être des chrétiens honnêtes, droits, qui sont des signes dans ce monde. Nous sommes appelés à être des signes. Et nous devons être encouragés, malgré les difficultés qui sont devant les églises. Hein. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. On va terminer par la prière. Merci, notre Père, pour ta parole. Et c'est vrai qu'elle est parfois assez complexe, mais en regardant les autres passages parallèles, on arrive à comprendre ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu saint et tu es aussi un Dieu de grâce. Et tu es les deux et nous ne voulons pas négliger l'un pour l'autre. Merci pour ta grâce qui nous a rachetés alors que nous étions vraiment pécheurs. Merci aussi pour ta sainteté qui fait que lorsqu'il y a la sainteté, tout va droit, les choses sont en place, il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas d'angoisse. Mais il y a une paix profonde. Merci pour la paix, pour le sommeil que nous avons la nuit. Et Seigneur, donne-nous d'être vraiment des chrétiens purs, honnêtes, qui comptent sur ton esprit, qui sont remplis de ton esprit. Je prie pour les églises qui sont découragées. Je te prie pour l'église de Somain, qui n'a pas de pasteur, que tu les renouvelles, Seigneur. Tu les encourages, les fortifies. Et toutes les églises qui sont ainsi un peu faibles, fragiles, que Seigneur, tu touches les chrétiens, qu'ils reviennent à ta parole. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.